Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce 42e épisode du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste à l'agence de presse AEF Info. Et avec Jérôme Kaby, délégué général de la FNEJ, nous recevons aujourd'hui, et c'est assez exceptionnel pour être souligné, un centaure. Cette figure hybride, chère à la philosophe Gabrielle Alpern, qui a d'ailleurs consacré un ouvrage intitulé « Tous centaures, éloge de l'hybridation », même si notre invité, lui, se décrit plutôt comme un marginal séquent, car ses références puisent du côté des sciences du management. Un marginal séquent, comme il va nous l'expliquer dans quelques minutes, c'est une personne qui a un pied dans deux mondes différents, qui, a priori, ne communiquent pas beaucoup entre eux. Laurent Chouin, bonjour.
Bonjour Sarah.
Et bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous avez remarqué que les musiques d'intro des podcasts ont toujours la même rythmique.
C'est vrai ?
Oui.
Laquelle ?
Absolument. C'est une rythmique engagée, un peu scandée.
Oui.
De sorte que ça invite à écouter ce qui va venir après.
Ah oui, donc, c'est pour nous mettre dans l'ambiance.
Exactement.
Bon, Laurent Chouin, je vous ai comparé à un centaure parce que vous êtes l'incarnation même de l'être hybride. Côté pile, vous menez depuis une trentaine d'années une carrière de DRH dans de grands groupes comme Mazars, le groupe Caisse d'Épargne, la chaîne Kempinski Hotel. Et depuis aujourd'hui même, ce 1er avril, date à laquelle nous enregistrons ce podcast, vous devenez le DRH monde du groupe Accor. Et puis côté face, vous avez suivi un parcours académique pur sucre. Après vos études à Neoma Business School, vous avez fait un master à l'université Panthéon-Sorbonne, puis poursuivi en doctorat en sciences de gestion à Panthéon-Assas, où vous avez aussi passé votre HDR, jusqu'à devenir professeur d'université à temps partiel. Vous enseignez au sein du fameux CIFOP, toujours à Panthéon-Assas. Et alors, comme tout cela ne suffit pas à remplir une vie professionnelle, vous êtes aussi à vos heures perdues coach de dirigeants. Et ceux qui vous connaissent savent que votre carnet d'adresses n'a rien à envier à celui d'un PDG du CAC 40.
Ça, je ne sais pas. Mais...
Alors évidemment, après tout ça, une question me brûle les lèvres. Comment arrive-t-on à mener de front une carrière à des hauts postes opérationnels comme ceux-là dans des grandes entreprises et une vraie vie d'universitaire ? J'ajoute quand même, c'est important, parce que vous avez été membre à ce titre de la CEFDG, la commission d'évaluation des formations
pour
et des
diplômes. Pendant de nombreuses années, absolument.
Ouais. Et que vous êtes actuellement vice-présidente de l'EFMD, la Fondation Européenne pour le Développement du Management, qui délivre entre autres l'accréditation EQUIS pour les meilleures business schools. Alors, c'est assez rare quand même d'avoir un parcours comme ça. Comment vous l'expliquez ?
Comme il me manquait quelque chose, j'ai aussi pris il y a 6 ans, pendant la Covid, la présidence de l'International Advisory Board de Bologna Business School, mais ça, c'est pour le lifestyle et les pâtes.
Les pâtes, en un mot ou en deux mots?
L'apostrophe et P-A-T-E, non. Non, absolument pas. Mais en fait, c'est intéressant la question, Sarah, parce que en réalité, ça correspond aussi à ce qu'on appelle depuis... Alors, dans la littérature, d'ailleurs, depuis peu de temps, depuis 2007, de mémoire, un article dans le New York Times de Marcy Albauer qui décrivait cette capacité à avoir plusieurs métiers, finalement, dans une même vie, non pas successifs, mais parallèles, comme étant ce qu'on appelle un slasher ou slash worker. Donc, si on veut le dire en français de manière plus poétique, une forme de donjuanisme professionnel qui fait qu'on va multiplier finalement les expériences professionnelles simultanées. Mais en réalité, il y a plusieurs conditions à ça. D'abord, il faut bien comprendre que ça n'a pas du tout été inventé par des cas de sup qui auraient plein du temps, etc. Au départ, souvent, le fait d'avoir plusieurs métiers, c'était pour compléter un salaire, c'était pour parce qu'on avait un métier plutôt pauvre qui ne permettait pas de survivre et donc on faisait d'autres choses à côté.
Vous parlez des profs, là ou...
Alors, par exemple, sans doute. Oui, c'est vrai que la fonction de prof a été relativement peu valorisée par rapport à son utilité de tout temps. Hein. Mais il y a eu des moments où c'était nécessaire, en tous les cas, de la compléter. Non, en réalité, il y a des conditions pour pouvoir faire ça dans une seule et même vie, bien évidemment. C'est, vous le comprenez, d'abord que tout ça soit très interconnecté. C'est-à-dire que on n'a pas cité d'autres activités d'entrepreneuriat, je dirais. Mais tout cela se passe dans le même monde. C'est-à-dire que quand, avec Serge Trigano, on crée une société dont la vocation, c'est de s'occuper des sites d'universités d'entreprises, de grandes entreprises... Bien sûr, c'est connecté à mon métier de DRH à l'époque, c'est connecté aussi à mon métier de prof, c'est connecté à ma connaissance du monde, justement, de l'éducation, enfin ce qu'on appelle l'executive education, donc du développement des leaders. Donc il y a un fil directeur dans tout ça qui reste quand même ça, c'est-à-dire finalement de développer des leaders individuellement, collectivement, dans des univers qui sont très pragmatiques souvent, mais aussi théoriques parfois, et j'ai toujours voulu avoir ces deux choses-là. Je reste fondamentalement un étudiant maternelle. Mmh. Simplement, bah, dans les systèmes universitaires, à un moment, il y a une sorte de plafond, c'est-à-dire quand vous avez atteint le dernier diplôme possible, la HDR étant le diplôme le plus élevé dans le système français, bah, la manière de continuer à apprendre, c'est par exemple de diriger des thèses, ce que je fais aussi.
Oui, ce que vous faites aussi.
Voilà, au large GEPA, donc voilà. Bien sûr, l'essentiel de mon métier a été toujours, par contre, d'être un profane, c'est-à-dire finalement j'ai toujours passé du temps à diriger effectivement les ressources humaines de différentes entreprises. Oui.
Pourquoi vous n'avez jamais choisi entre les deux, et notamment choisi d'être prof à temps plein ou même directeur doyen d'une business school, puisque vous êtes très proche de ce milieu, vous connaissez beaucoup de dirigeants d'école, pourquoi vous n'avez
jamais... Bien sûr, bon, d'abord effectivement ça a été des possibilités dans ma vie professionnelle, en particulier des écoles qui étaient tout à fait prestigieuses, respectables et attirantes, il n'y avait pas de sujet. Bah, je vais faire la réponse que sans doute a pu faire mon amie Nathalie Loiseau, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je veux tout », qui expliquait que justement, il ne faut pas renoncer. Je pense que dans la vie, elle, bien sûr, le voyait sous l'angle aussi de l'émergence des femmes dans les fonctions dirigeantes, mais on apprend plus souvent à dire non qu'on essaie d'apprendre à dire oui. Et moi, j'ai toujours eu cette attitude vis-à-vis de mes équipes, de leur dire, si vous voulez vraiment avoir des vies professionnelles intéressantes, commencez par dire oui à tout, et ensuite, vous choisirez. Mais l'attitude sélective par défaut est, à mon avis, pas forcément la bonne attitude.
Mais là, vous n'avez pas dit oui quand on vous a proposé une grande business school.
Parce que là aussi, ça faisait écho à autre chose. Je crois qu'au fur et à mesure, et honnêtement, je n'avais pas ça quand j'étais étudiant, mais il y a un moment, on doit comprendre que sont nos drivers, ce qui fait que nous avons des systèmes activateurs de nos choix, de nos actions. Et il se trouve que dans mon cas, encore une fois, je n'ai pas commencé ma vie avec cette logique-là, mais j'ai compris que c'était ce qui m'animait au fur et à mesure de la construction de mon parcours. En fait, il y a trois choses qui comptent pour moi, c'est la liberté, le lifestyle et les écosystèmes. Alors, je m'explique rapidement. La liberté, c'est le fait d'être dans des métiers où il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit ce qu'il faut que je fasse ou que je pense dans mon métier. Parce que ça permet de faire en sorte que, plutôt que d'avoir votre rêve qui ressemble à la réalité, bah, vous faites que la réalité va ressembler un peu plus à votre rêve. Donc la première condition, c'est celle-là, c'est d'être dans le driver's seat, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire être aux commandes un peu quand même dans son domaine. La deuxième, c'est important aussi, c'est de faire tout ça parce qu'on n'a qu'une vie. J'ai toujours aimé cette phrase de Philippe Noiret, alors bien sûr c'est du siècle dernier, comme le faisait remarquer une amie récemment. Mais Philippe Noiret avait coutume de dire « le voyage est court, autant le faire en première classe ». Donc voilà. Donc j'essaye de garder cette logique, de garder une forme d'élégance en toute chose, mais de profiter de la vie aussi, d'avoir des choix de vie qui font qu'on a une belle vie, parce qu'encore une fois, on n'aura pas deux occasions d'en avoir une. Et puis enfin, l'écosystème, c'est que j'ai toujours cherché des endroits qui me permettaient d'étendre les gens que je rencontrais, le type de connexion neuronale et amicale que je pouvais avoir. Et ça a toujours été un élément important de choix. Donc si vous dirigez une grande école, malheureusement, vous ne pouvez pas faire d'autre chose à côté. Curieusement, vous avez beaucoup plus l'occasion de le faire quand, par exemple, vous dirigez les ressources humaines de très grands groupes, parce que l'une des fonctions stratégiques de la fonction ressources humaines, c'est ce qu'on appelle dans le test Belbin « resource investigator », c'est-à-dire la capacité d'aller chercher en dehors de l'organisation les ressources qui lui manquent. Alors que le management d'une business school, la plupart du temps, vous concentre énormément sur ce que vous devez faire. Bien sûr, vous expose aussi, mais j'ai trouvé que c'était des écosystèmes qui étaient un peu plus limités que ceux que m'offraient les entreprises, qui d'ailleurs m'ont permis à côté de développer justement le même écosystème qu'un directeur d'école avec les mêmes types de gens.
Oui, je voulais y venir. Donc vous n'avez jamais dirigé d'école, mais la première chose que vous avez faite en arrivant chez Accor, c'est de lancer, avec quelques grands patrons comme Sébastien Bazin ou Serge Trigano, une école, enfin, ce que vous avez appelé une école, l'école de la relation. Alors c'est pas une école, c'est un programme de formation inter-entreprise plutôt. Mm-hmm. Mais ça ressemble un peu à votre école de rêve, non?
Alors, en tous les cas, c'est un rêve d'école, on va dire ça comme ça. D'abord, je ne l'ai pas lancé en étant chez Accor, je l'ai lancé avant.
Okay.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des formes parfois de synchronicité ou de coïncidence qui font que le jour de l'annonce de mon arrivée chez Accor était aussi le premier jour de lancement de l'école de la relation. La notion qu'il y avait derrière, c'était effectivement dans cette petite partie d'entrepreneuriat que j'ai eue avec Serge Trigano et puis avec des cofondateurs, parce qu'on n'a pas fait ça seul. Donc il y a avec nous des cofondateurs. Nous avons, vous l'avez cité, Accor, les Galeries Lafayette, Fnac Darty, Emeis, comme Exposium, et tout ça avec le parrainage d'un autre cofondateur qui est le M Lyon. Et donc en réalité, voilà, on a réuni des gens qui pensent comme nous qu'aujourd'hui, il faut essayer de redonner l'envie des beaux métiers de service, qui sont des métiers très utiles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En particulier, je crois qu'aujourd'hui, mon réengagement dans l'hôtellerie, qui est un retour à d'anciennes amours, est aussi lié pour parachever ma vie exécutive à l'investissement dans un secteur où j'espère on peut être utile socialement à un moment où peut-être l'IA et d'autres dimensions font peser sur l'emploi des menaces. Il y aura toujours besoin de dormir et de manger. Et il y aura toujours besoin d'avoir des gens qui font ça bien. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir forcément une formation au départ pour faire ça. On reste encore un métier où parfois, sans avoir démarré dans la vie par une formation, on peut faire des belles vies et des belles carrières.
Alors restons justement sur ce prisme de DRH,
oui.
Mais avec un angle un peu particulier, qui est celui des relations entre l'enseignement supérieur et le monde économique, parfois compliqué, et qui a été très impacté par la réforme de l'apprentissage, son développement dans les entreprises. Alors, très développé, et puis depuis maintenant quelques mois, qui est en phase de retrait. Et donc, quel est votre point de vue, quel est votre regard sur cette réforme et sur ce qui est en train de se passer ?
Alors, j'en suis pas un spécialiste du tout. J'en suis plutôt quelqu'un qui a été à la fois un bénéficiaire, un récipiendaire, un praticien, finalement, de ça. Si je prends une image, cher Jérôme, puisqu'on est aussi dans un contexte, là, on va faire un peu d'académisme tous les deux, ça va être intéressant. Vous savez que la plupart des modes de raisonnement stratégique sont construits autour du fameux Michael Porter. Et derrière, il y a une série d'exégètes qui font de la réflexion en chambre. C'est-à-dire que tous pensent qu'on fait de la stratégie avec un égal accès illimité à toutes les ressources. Et en fait, il y a une théorie qui, moi, a inspiré toute ma vie, qui est celle, au contraire, de ce qu'on appelle la resource-based view, donc la théorie de la gestion par les ressources, qui fait que malheureusement non, tous, et même quand on est des grandes entreprises, nos ressources sont limitées. Et je pense que c'est ça qui conduit la véritable stratégie et parfois des choix stratégiques contraints. Et me semble-t-il, au moment où la réforme de l'apprentissage est venue, c'était parce qu'aussi, il fallait sans doute faire des arbitrages d'allocation de ressources qui ont pu conduire à changer la nature d'un système qui pourtant, selon moi, avait eu un mérite. C'est-à-dire que quand vous commencez à allouer des fonds d'apprentissage ou autres, y compris des gens qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire par exemple des étudiants de business school pour beaucoup d'entre eux, en même temps aussi, vous sortez en partie l'apprentissage de son ghetto qui était avant très très marqué sur des formations pour des gens qui étaient dans ce qu'on aurait appelé à l'époque des échecs scolaires ou des voies de garage. Et d'un seul coup, on a donné à l'apprentissage des lettres de noblesse qui n'existaient pas en France, alors qu'elles existent bien sûr. Bon, tout le monde pense à l'Allemagne, mais pas seulement. La Hollande, par exemple, les Pays-Bas sont un pays de grande tradition d'apprentissage. Donc, en réalité, moi, je pense que ça a permis de sortir d'une forme d'ornière. Je comprends les raisons éthiques, sociales, qui font qu'on puisse dire aujourd'hui, mais réallouons les fonds d'apprentissage plutôt sur des populations qui en auront plus besoin. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'il y a... Comme toujours, la complexité est là. On n'est pas sur des choses qui sont bêtement des choix idéologiques. Donc, il faut qu'on ait une approche de cette question-là qui soit plus ouverte, peut-être aussi plus internationale qu'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut continuer à faire que la France devienne aussi un pays où l'apprentissage est vraiment valorisé. Donc, je ne voudrais pas que cette réforme casse cette dynamique.
C'est en lien aussi avec l'essor de l'enseignement supérieur privé. Puisque aujourd'hui, un étudiant sur quatre qui est accueilli,
qui
en bénéficie. Et il est vrai que cette croissance de l'enseignement supérieur privé doit beaucoup à l'apprentissage. Alors, est-ce que c'est aussi pour vous une bonne ou une mauvaise évolution ?
Ça a apporté en tous les cas un développement important. Vous savez, j'ai un moment, il y a quelques années, je crois que ça devait être en 2014 ou 15, trois amis qui sont des amis communs, Franck Bournois, Ezra Souleyman et Yasmine Ajaidi, ont sorti un ouvrage important qui s'appelait « La prouesse française ». Le principe de cet ouvrage, c'était d'interroger des gens qui travaillent dans des sociétés françaises, mais qui ne sont pas français, donc des étrangers travaillant pour le compte de grandes sociétés françaises, comme Accor, par exemple, Accor étant très international, mais d'origine française, ou Mazars. Eh bien, on leur demandait, finalement, décrivez-nous le fameux management à la française. Alors, si vous le demandez à des Français, comme on est les champions du monde de l'auto-dénigrement, bien évidemment, c'est on est nul, on est, etc. Et là, en fait, quand vous demandez aux étrangers, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vous expliquaient en quoi, finalement, eux, ils préféraient même que d'autres systèmes être dans un système, disons, d'inspiration ou de culture française, si tant est que ça puisse signifier quelque chose. Et ce qui était intéressant, donc ils ont appelé leur livre « La prouesse française », parce que c'était quelque chose d'intéressant de remarquer ces spécificités positives que peut avoir parfois le management à la française. Et De manière intéressante, si vous regardez, alors j'en avais fait d'ailleurs une sorte de chronique pour, à l'époque, la revue personnelle, donc le magazine de la DRH aujourd'hui, en reprenant certains domaines. Et en particulier, je me souviens du premier article, la première chronique que j'avais écrite, qui était « La cuisine, la mode et le management ». Alors pourquoi ? Parce que si vous regardez, c'est trois domaines dans lesquels notre représentation, notre image est très supérieure à notre poids réel. Si je prends le management, vous prenez les classements du Financial Times, bon, qui varient entre 80, 90 ou 100 écoles, vous allez retrouver une trentaine d'écoles françaises, par exemple. Évidemment, notre poids économique, c'est pas un tiers de l'économie mondiale, ni des endroits où il y a des business schools.
Ni notre représentation du management, d'ailleurs.
Et ni, bien sûr, alors bien sûr, comme on est français, on va s'auto-dénigrer, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a une vraie prouesse française. Si vous regardez l'évolution des écoles, quand j'étais l'un des dirigeants de l'école de commerce de Reims, il y a maintenant enfin, au siècle dernier, bien évidemment, nous étions très très loin de cette réalité. Et aujourd'hui, si vous regardez, ne serait-ce que par exemple un standard que je connais bien, le nombre d'écoles françaises qui bénéficient de l'accréditation EQUIS 5 ans est incomparable à ce qu'il était évidemment au tout début, même s'il y avait bien sûr des Français et des champions. Donc, si vous voulez, il faut savoir reconnaître que là, comme dans la mode, comme dans la cuisine, il y a quand même eu un succès français extraordinaire, qui d'ailleurs se dénote aussi autrement, c'est qu'il y a des Français qui dirigent maintenant des très grandes écoles à l'étranger. Hein, donc c'est assez remarquable de ce point de vue-là.
Alors, c'est une prouesse qui est réelle, mais qui semble toucher à ses limites, puisqu'on voit des annonces malheureuses qui commencent à toucher des écoles françaises en difficulté. Alors, on n'est pas forcément sur celle du haut de tableau,
non.
Celle qu'on voit dans le Financial Times, mais on n'est plus très loin. Et qu'est-ce que ça vous inspire de ceci ?
Alors, ça m'inspire plusieurs choses. C'est que, d'abord, rien n'est jamais acquis définitivement, c'est une première chose. Mais surtout, on est dans un monde qui est aussi une recomposition permanente. Vous savez, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Pume. Ça ne parle à personne. C'était une société qui, par contre, avait une très belle image à l'époque. Et par le jeu des combinaisons, disons, dans la sidérurgie, est aujourd'hui, en fait, une dimension commerciale d'ArcelorMittal. Mais pourquoi ? Parce que c'était un monde qui était en reconcentration permanente. Donc, sur une trentaine d'années, la métallurgie, la sidérurgie française se sont recomposées. C'est pour un bien, pour un mal, je ne saurais vous dire. Une chose est sûre, c'est que ça s'est produit. Donc, le monde global est un monde qui se recompose en permanence, où il y a des synergies qui se trouvent, parfois des histoires qui se terminent pas bien. Je viens du monde de l'audit, là, pendant 16 ans, Arthur Andersen, qui était vraiment le parangon absolu des sociétés d'audit, a disparu en 3 mois, suite à l'affaire Enron.
Mais vous pensez que le monde des business schools françaises va se consolider là, dans les années qui viennent ? C'est comme ça que vous le voyez ?
Ma vision a toujours été, y compris quand j'étais à l'ESC Reims, que s'il fallait se consolider ou se marier, ça n'aurait pas dû être entre Français. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui est à venir encore, ce sont des mariages ou des consolidations transnationales. Je vous donne un exemple. Bon, j'ai une forte germanophilie pour des raisons familiales aussi, mais vous voyez, par exemple, à l'époque déjà, donc on est dans les années 95 à peu près, j'avais souhaité que l'ESC Reims se rapproche, non pas de Rouen à l'époque, mais de Aachen, de Aix-la-Chapelle. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était pas une faculté de sciences économiques ou de gestion, donc on apportait chacun ses dimensions. C'était proche, à moins de 100 km d'écart. Les étudiants pouvaient facilement passer d'un campus à l'autre. Ça aurait fait, à l'époque, hein, vous aviez tous les grands champions français qui commençaient à exister, champions français et allemands en même temps, les Airbus, les Arte, etc. Donc il y avait en fait plein de raisons pour lesquelles on aurait dû faire ça. Donc moi, je crois que si on veut construire, par exemple, l'Europe demain, c'est moins par les contraintes de la guerre, etc. Mais il y aura aussi toujours cette vision positive d'une Europe qui peut s'unir autrement. Donc ce qu'a fait le SCP, par exemple, est remarquable, puisque en ayant cette logique des 6 campus, bah, ils ont préfiguré ce qui, pour moi, devrait être demain les business schools d'un monde nouveau. Et ces business schools seront, à mon sens, transnationales, transfrontières.
Alors, il y a un autre sujet qui nous importe en ce moment, et on a envie d'entendre le DRH que vous êtes sur ce sujet, c'est l'usage généralisé que font désormais les étudiants de l'IA, et qui interroge profondément le rôle et la mission des professionnels de la formation. On voit même apparaître des livres sur le thème « C'est la fin de l'université, rendue obsolète par l'IA ». Vous voyez à quoi je fais allusion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que DRH ? Est-ce que vous êtes vraiment en train, vous, pas vous à Accor, mais vous, les DRH, de sabrer dans vos recrutements de jeunes diplômés pour les remplacer par des IA, comme l'annoncent nombreuses études sur le sujet en ce moment ?
Absolument pas. D'abord, c'est pas la première fois. Je ne nie pas le côté assez historique et différenciant de l'arrivée, pour l'instant, disons, des LLM sur le marché, parce que ce dont vous parlez, ce sont
les agents IA.
Voilà, les langages, les modèles large language model. Mais si on parle d'IA, je pense que les applications... Alors, c'est bien sûr la théorie de Yann LeCun, il y a d'autres personnes comme ça qui pensent que c'est en fait une sorte d'illusion de se limiter aux LLM, qui sont quelque chose de très intéressant, mais que finalement, c'est Internet plus, quoi. Comme d'ailleurs, probablement, à l'époque, et je crois me souvenir, au moment d'Internet, il y a des universitaires qui ont dit « mais il faut absolument interdire l'utilisation de Google, etc. » Moi, je vais vous dire, dirigeant des thèses, par exemple, Dieu sait si je ne suis pas certain que le fait de devoir se rendre physiquement dans une bibliothèque, de chercher une aiguille dans une botte de foin, vous forme à être autre chose que des psychopathes, parfois. Donc, non, ça, je pense qu'il faut vivre avec son temps, de ce point de vue-là. L'IA permet de faire des choses remarquablement intéressantes. Je ne pense pas que nous soyons en danger de progrès, comme disait à l'époque, je crois, François de Closet de mémoire.
Mais vous n'avez aucune inquiétude sur l'avenir des jeunes diplômés, là, ceux qui sortent cette année, ceux qui sortent l'année prochaine ?
Pas du fait de l'IA, j'ai plus d'inquiétude sur l'avenir des jeunes diplômés dans un monde qui se divise alors que l'ensemble des systèmes qu'on a construits étaient fondés sur la globalisation. Vous voyez, si vous reprenez l'ensemble des missions des écoles, c'est de former des citoyens du monde, sans frontières, etc. Et c'est-à-dire, le modèle qu'on a créé des business schools date quand même d'il y a 30-40 ans, à un moment où justement, et regardez la norme Equis le permettait, on allait vers l'internationalisation croissante. Et là où on doit affronter un monde qui est plus dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt en rétraction de ce point de vue-là. On est dans un monde qui se multipolarise ou se polarise. Et donc, à partir de ce moment-là, le modèle sur lequel était construit cette idée d'absence de barrières, de croissance mondiale, de globalisation, celui-là est de moins en moins vrai et de moins en moins valable. Et donc, la nature des jobs qui peuvent être offerts après à des jeunes va changer. Maintenant, par l'IA, oui, il y aura bien évidemment des conséquences, mais ce ne seront pas des destructions massives d'emplois. Je vais vous le formuler comme je le vois, en particulier grâce à Accor. Et il faut comprendre que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir à peu près 1,2 milliard de gens qui vont entrer sur le marché de l'emploi. Donc, des
dans
jeunes,
le monde entier.
Dans le monde entier, bien sûr, oui, pardon. Et sur ce 1,2 milliard, on estime qu'aujourd'hui, le modèle économique actuel peut générer l'équivalent de 400 à 500 millions d'emplois. Donc la question, c'est quid des autres, des 800 millions qui restent, ou des 700 ou 800 millions qui restent. Et vous voyez, moi je suis plus inquiet du fait que si vous laissez sur le carreau 800 millions d'êtres humains qui n'ont pas d'espoir, vous savez, c'est la définition, la belle définition que donnait Charles Handy, mais enfin, en réalité, c'est le démoniaque grec. Pour être heureux dans la vie, il faut trois choses. Il faut quelqu'un à aimer, quelque chose à faire et quelque chose à espérer. Aujourd'hui, je pense que deux au moins de ces conditions sont moins remplies. Quelque chose à faire et quelque chose à espérer. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, ça m'importe aussi, à titre personnel, de me réengager dans le monde de l'hôtellerie, parce que il y aura toujours besoin de dormir, toujours besoin de manger, et je pense que c'est des vrais jobs qu'on crée. Et là, l'IA aura du mal à remplacer tout ce qu'on fait, même si l'IA, bien sûr, va particulièrement pénétrer aussi les mondes des services, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut garder ce cap-là.
Alors, même si on ne l'a pas ignoré depuis le début de ce podcast, revenons un peu sur le secteur des business schools, mais par rapport à votre casquette notamment de vice-président de l'EFMD. Si vous étiez aujourd'hui le patron d'une business school, quelles seraient vos priorités? Sur quoi se porterait votre attention? Quels seraient les grands défis auxquels vous souhaiteriez répondre?
Alors, on peut le prendre de plein de manières. C'est intéressant parce qu'en ce moment, je suis en train de présider le search committee pour le recrutement d'un doyen de business school. Donc, cette question, on se la pose. Alors, je ne me la pose pas comme titulaire possible du poste, vous l'avez compris, mais je me la pose comme étant le président de ce comité de recherche et en me disant, OK, c'est quoi les profils qu'on va chercher? Et on en discute. Si vous voulez, il y a deux choses. Moi, je crois qu'il y a des moments dans la vie où vous êtes le capitaine Stubbings, c'est-à-dire que c'est the love boat. Donc, le bateau a été construit. Ce qu'il faut, c'est que vous amusiez la galerie suffisamment bien, mais on espère juste que le bateau ne va pas couler. On n'est pas le Costa Concordia, je crois, de mémoire. Et ça va bien se passer. Et donc, là, vous vous concentrez sur bien amuser une croisière, mais qui était la même que celle que vous avez fait la semaine d'avant et que vous ferez la semaine d'après. Bien. Et puis, il y a d'autres moments qui sont des moments de réinvention. Où là, comme on se le disait tout à l'heure, tout le monde ne va pas pouvoir survivre dans les business schools. Donc, la réponse, pardon Jérôme, mais elle dépend de quel type de business school. Hein. Si vous dirigez HEC aujourd'hui, vous êtes Loïc, c'est pas pareil quoi, que si vous dirigez une école qui aura plus de difficultés. Moi, je crois qu'il faut rechercher en toute chose des cofondateurs quand vous cherchez un patron. Alors, c'est quoi un cofondateur ? C'est bien sûr quelqu'un qui n'était pas là au moment de la fondation, mais qui a l'esprit des gens au moment de la fondation. Et je fais un gros distinguo entre des fondateurs et des entrepreneurs. J'étais un peu les deux, mais de manière marginale, donc je suis prudent dans ce que je raconte ici. Mais pour moi, l'énorme différence, c'est qu'un entrepreneur cherche à faire croître une organisation. Alors qu'un fondateur, pas du tout. Il cherche à résoudre un problème intellectuel. C'est pour ça que vous avez vu des grands fondateurs. Bill Gates est connu pour ça. À un moment, il a dit « mais j'ai plus envie d'être CEO » ou Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, quand on lui disait en 2006, deux ans après la fondation de LinkedIn, « c'est quoi votre job de CEO ?» Et il répondait « de trouver le prochain CEO ». Et très vite, il a transmis son entreprise. C'est-à-dire que, vous voyez, je pense qu'il y a une confusion entretenue entre la notion de fondateur et d'entrepreneur, que les objectifs ne sont pas les mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, on a un moment où il faut chercher des cofondateurs, pas juste des entrepreneurs. Et c'est un peu le danger, parce que dans les business schools, puisqu'on fait du business, on a tendance à aller chercher principalement des entrepreneurs, donc des gens qui vont faire croître la taille, donc de plus en plus d'étudiants. On va créer le bachelor, le machin qui va faire que. Je pense qu'il faut chercher des cofondateurs. Et donc, si j'étais, en tous les cas, aujourd'hui, en train de recruter un patron pour une business school, ce que je crois je suis en train de faire, eh bien nous mettrions dans la job description ce que nous avons fait, que nous recherchons des cofondateurs, ce que nous allons trouver.
Vous avez un peu de mal à vous mettre dans les chaussures d'un directeur de business school, hein. Ni en vrai, ni en
rêve.
Oui,
parce que d'abord, faut pas... Moi, j'ai une phrase dans ma vie, enfin, je suis désolé, elle est un peu triviale, mais... Je pense que dans la vie, il ne faut pas apprendre à ses parents à faire des gosses. Donc, il y a un point qui est qu'il faut une forme d'expérience, il faut des... Vous voyez, si je pense à des Franck... Si je reste dans le domaine français, hein, mais si je pense à des Franck Bournois, si je pense à Delphine Manceau, si je pense même à Loïc Perrache, par exemple, ils ont tous des parcours différents, mais c'est des gens qui ont quand même appris le métier dans les business schools, ils savent ce que c'est. Donc, l'idée qu'il y aurait un grand capitaine d'industrie, parce qu'il a été un grand capitaine d'industrie, qu'il pourrait devenir un patron de business school, absolument pas. Utiliser les grands capitaines d'industrie pour être les présidents, par exemple, de ces business schools ou des fondations.
Le cas, d'ailleurs.
Jean-Paul Agon, par exemple, très bon exemple. Gilles Pélisson à l'ESSEC à une époque. Voilà, c'est ça. Michel-Édouard Leclerc chez Neoma, pour le citer. Donc, vous voyez, il faut avoir cette logique de dire, attention, c'est des vrais métiers de diriger business school. Voyez. Et donc, c'est pour ça que l'expérience compte, me semble-t-il. Mais aussi, la capacité à s'insérer dans des écosystèmes plus vastes, comme par exemple le FMD, ce qui est assez fondamental.
Tout à fait. Mais cher Laurent Choix, on a déjà passé tout le temps qui nous était consacré
pour
ce podcast.
Pour
ouais. Mais nous terminons, nous avons quand même une dernière question à vous poser, ouais. Puisqu'on termine toujours ce grand oral par une question rituelle, mm-hmm. qui est celle de votre conseil de lecture que vous auriez envie de donner à nos auditeurs. Lecture ou... podcast,
alors,
film, c'est le choix.
Je vais vous inviter à une lecture à la fois ancienne et future, puisqu'on a commencé par le Marginal Sécant. Donc je voudrais rendre hommage ici à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Erhard Friedberg, qui était donc l'un des deux co-auteurs de L'Acteur et le Système, c'est-à-dire de cet ouvrage qui est un peu l'être et le néant de la sociologie des organisations. Et Erhard est toujours très, très prolifique et productif dans ses écrits. Et il sort prochainement un ouvrage. Et je voudrais juste, en lui rendant hommage aussi, peut-être inviter à le lire quand l'ouvrage sortira. Mais deux aussi, à rappeler un bel ouvrage d'Umberto Eco qui s'appelait « Lector in fabula », c'est-à-dire en fait qui disait que c'est pas l'auteur ou l'écrivain qui est le plus important, c'est le lecteur, il faut que le lecteur soit actif. Et à ce titre-là, alors je vais donner un deuxième conseil de lecture si je peux.
Je vous en prie.
Un ouvrage collectif pour lequel j'ai pris une part absolument minime mais qui est très intéressant, qui cartonne complètement, qui a été principalement l'œuvre d'Emmanuel Duez et Ibrahim Affal, qui s'appelle « Le commandement ne dort jamais », ce qui est assez intéressant parce qu'évidemment, alors ça a été écrit indépendamment de la crise actuelle, mais enfin, il est particulièrement d'actualité, qui permet de voir cette notion de management ou de commandement de l'intérieur par des gens qui sont confrontés à des situations de tension. Donc, s'il y a un truc à lire en ce moment, c'est peut-être celui-là, voilà. Et puis surtout, guettez bien la sortie du livre d'Erhard, parce que ce sera intéressant de voir ce qu'est un manager in fabula.
Ah oui, il reprend le...
Il ne le reprend pas, mais c'est comme ça que je l'ai lu, moi, en tous
okay.
les cas.
Hein, voilà. Bon.
Donc, j'ai fait un lien entre Eco et de Bologne, bien sûr, et Erhard Friedberg
vous
de Vienne.
Vous bouclez la boucle. Super, ben, merci beaucoup, Laurent.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Accord d'être passé au Studio Module aujourd'hui. Merci à vous, Jérôme, aussi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.